nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Dans l'histoire de l'humanité, il y a un avant et un après l'entrée du Messie à Jérusalem. N'oublions pas la grande tradition judaïque, c'est que Jérusalem est le nombril de l'univers. Le temple dans lequel il va pénétrer, le nombril, le centre de Jérusalem. Et donc l'entrée dans Jérusalem de Jésus, du Messie, et son entrée dans le temple, c'est l'entrée au centre de toute chose. Toute chose, le moindre détail, un grain de poussière, tout a un centre, et il entre à l'intérieur de tout. C'est donc l'accomplissement et l'anticipation de ce qui va venir, de l'incarnation dans sa plénitude. L'histoire d'Israël a commencé avec l'extraordinaire lâcher-prise de Abraham, qui non seulement a offert son fils, c'est-à-dire le tout de sa vie, mais sa vie elle-même. Et cette immense lâcher-prise qui est la plus grande leçon pour chacun d'entre nous, car vivre, c'est cela, c'est d'abord cela. La vie ne se manifeste qu'à celui qui lâche prise, qui devient pauvre de tout. Eh bien, cet acte d'Abraham qui ouvre l'histoire d'Israël, ouvre le ciel à Moïse. Et Moïse devient le fondateur d'un avenir radicalement nouveau parce qu'il a devant lui le ciel ouvert sur le Sinaï. Il reçoit alors à plein flot la Torah, la loi, la clé de la compréhension du monde, elle est là. C'est le Sinaï. Il n'est jamais assez haut pour ceux qui y étaient avec nous pour le manifester à toute l'histoire. Ce n'est pas étonnant alors que le peuple va porter avec Moïse l'arche d'alliance contenant cette Torah, la loi sur le mont Sion. Jérusalem sera bâtie sur la loi et autour de la loi. Mais ce n'est que le Messie qui va l'accomplir. Cette loi qui structure tout, qui contient tout, qui forme tout. Son véritable visage, c'est le nouveau Moïse, Jésus en personne. C'est lui la loi de tout. Il est la chair de tout, de l'univers y compris matériel. Il a seule loi qui nous permet de le reconnaître, la seule loi qui nous permet de le vivre en toute son intensité et de le découvrir dans sa plénitude, parce qu'elle véhicule, elle fait vibrer la chair, tressaillir d'allégresse et entrer en résonance avec lui. C'est la louange. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette louange seule, peut-être certains d'entre nous, j'en suis sûr, en ont l'expérience, cette louange seule fait tomber les faux vêtements. Il dépose leurs vêtements sous les pas de la messe, par terre. Quel dépouillement! Cette louange seule fait déposer tous les alibis, les fausses sécurités qui nous habitent au pied du Messie, pour qu'il les foule. Elle seule, cette louange, met dans nos mains, dans nos cœurs, la palme que nous tenons, qui veut dire que l'unique but de notre vie, c'est lui. Et si nous avons un autre but, alors, disent les pères, nous sommes des ratés de la création. Quoi que tu fasses, ici et maintenant, le matin, l'après-midi, le soir, si je te questionne, quel est en ce moment ton but, on devrait immédiatement ne pas se tromper et dire c'est lui et lui seul. Le fameux moine Dorian qui signait ainsi ses livres, le père Lève-Gillet disait un jour, si je suis capable de dire en toute sincérité et en toute soumission, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si cette phrase exprime l'élan de tout mon être vers le roi que désormais j'accepte comme Seigneur et Maître de ma vie, alors je me suis à cette seconde même détourné de mes péchés. Et j'ai reçu en moi Jésus-Christ qui fait son entrée dans ma Jérusalem intérieure. Ma Jérusalem céleste intérieure, c'est mon propre cœur. Et si je dis qu'il soit béni celui qui vient à moi, je découvre sans doute dans mon temple intérieur qu'il y a des bandeurs. Alors, le premier acte, le grand acte de ce Messie qui entre chez moi, c'est de chasser les bandeurs du temple. Il fait un immense nettoyage si je lui